Bonjour, soyez les bienvenus à Boulogne-sur-Mer. Nous sommes sur le quai du port de pêche pour vous accueillir à 9 jours de Noël avec son lot de produits de la mer sur nos tables. Comment vont les pêcheurs? Ils vont moyennement en vérité. Toutes les licences pour travailler dans les eaux britanniques n'ont pas été distribuées. Y aura-t-il de nouvelles actions dans les jours à venir? Le président du comité des pêches ici vient de nous dire que les pêcheurs seraient reçus demain à l'Elysée par Emmanuel Macron. Autre sujet, le manque de ressources en mer inquiète de plus en plus les professionnels. À long terme, comment continuer à exercer ce métier si difficile? C'est tout cela que nous allons explorer jusqu'à 14h. Sans oublier le plaisir, entre le port et la brasserie, le Châtillon où nous serons installés tout à l'heure, il y a le choix des ingrédients pour les repas de fête, mais ça part vite, n'est-ce pas madame?
J'ai déjà plus de crabes, j'en avais pas beaucoup aujourd'hui, je suis désolée. Allez voir le Saint-Jules, il y a du beau crustacé.
Eh oui, du beau crustacé, France Inter avec les professionnels de la mer ici à Boulogne, mais aussi les autres titres de l'actualité. C'est avec vous à Paris, Marion Lourd.
Bonjour Bruno, bonjour à tous. À la une aujourd'hui, le gouvernement siffle la fin des violences dans le championnat de foot français. Interruption des matchs dès qu'un projectile blesse quelqu'un. Interdiction des bouteilles dans les stades. Détail des mesures annoncées dans un instant. Un peu plus de 4 millions de spectateurs devant la conférence de presse du président Emmanuel Macron hier. Salve de critiques de l'opposition, on l'entendra. Le président, pas candidat, précise lui son projet de réforme des retraites. Décryptage dans ce journal. Dans ce journal encore, quelles mesures contre la cinquième vague de Covid et Omicron? Nouveau conseil de défense demain, restriction annoncée pour les voyageurs venus du Royaume-Uni. Un droit au repentir est aussi à l'étude, on vous expliquera. Et puis un nombre record de journalistes détenus dans le monde cette année. Gros plan sur la Birmanie, l'un des pays les plus durs en la matière.
Juste avant 14h, nous ferons un petit tour à Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe qui a fêté ses 30 ans cette année avec la naissance de bébé requin léopard. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
À 13h sur le quai de Boulogne-sur-Mer, les petites échoppes installées juste à côté des bateaux où les pêcheurs vendent les prises du jour sont en train de fermer leur rideau bleu. Tout à l'heure, quand nous avons fait nos repérages, c'était 8 euros le carlé, la sole à 28 euros le kilo. Assez cher, on en manque, on en parlera. Je cite ces deux poissons parce que c'est ce que pêche un des marins qui sera un des fils rouges jusqu'à 14h de cette émission. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Bruno.
En reportage avec nous pour le 13-14, nous sommes sur le quai, là, juste devant un bateau d'une quinzaine de mètres de long, le Jérémy Florent 2. Vous avez suivi son patron ces derniers jours.
Oui, et le patron du Jérémy Florent 2, ça ne s'invente pas, eh bien, il s'appelle Jérémy. Jérémy Lommel, 34 ans. Il dirige ce qu'on appelle un filayeur. Ça veut dire que dès que la météo le permet, et c'est le cas depuis quelques jours seulement, eh bien Jérémy va poser ses filets en mer. Il attend quelques heures et puis il ramasse ce qu'il vendra le matin, donc juste derrière nous, sur les étals du quai Gambetta. Et sa spécialité, Bruno, vous allez l'entendre, c'est la sole.
Et vous avez passé une nuit en mer avec lui et ses deux ou trois marins?
Et ses deux marins.
Et ses deux marins. Départ 1h30 dans la nuit de mardi à mercredi.
Et la nuit, Bruno, sur la houle et beaucoup de bruit, et notamment le son permanent des échanges entre les marins sur la radio VHF à très haute fréquence. Jérémy Lommel discute avec le patron d'un autre petit navire qui relève comme lui ses filets posés la veille.
Ça parle beaucoup, ouais. On parle entre collègues de tous les problèmes qui se passent, quoi, liés au Brexit, aux licences, tout ça. C'est plutôt en ce moment une VHF force pleine.
Et comme beaucoup d'autres filayeurs boulonnais, Jérémy attend encore une licence pour pouvoir naviguer sur les côtes anglaises.
Ils ont fait ça pour vraiment emmerder le monde.
Il a envoyé tous les documents attestant de la présence de son bateau dans les eaux britanniques entre 2012 et 2016. Mais pour le moment, Londres joue la montre car Jérémy s'est installé à son compte il y a seulement 4 ans.
On est considéré comme navire remplaçant, qu'on n'en a jamais travaillé dans les eaux anglaises, qu'ils n'ont pas de base de données. On a un carnet sous les yeux avec tous les points GPS. Comme on peut dire à un pêcheur des Hauts-de-France qui n'a jamais été en Angleterre, c'est impossible. 45 minutes de route, on est dans les eaux anglaises. Tout le monde aurait dû avoir leur licence.
Toutes les licences ne sont pas encore là, Thibault. Et puis, l'espace pour pêcher se réduit.
Ils étaient 3 bateaux dans la nuit de mardi à mercredi à relever leur filet autour d'un petit banc de sable. C'était au large de la plage d'Ardelot, au sud de Boulogne-sur-Mer. Et c'est mathématique. Plus il y a de pêcheurs au même endroit, et bien moins il y a de poissons. Jérémy a ramassé seulement une quarantaine de kilos de sole et de carrelet pour l'essentiel, d'une valeur d'environ 1 000 000 €. C'est 2 fois moins qu'avant le Brexit.
Je suis dégoûté, oui, bah oui. On est en faillite. Et le bateau, pour l'instant, on l'a mis en vente et on a toujours peu d'acheteurs. Hein. J'ai une femme et 2 enfants, on a dû repartir vivre chez ma sœur en attendant que les joueurs soient meilleurs. Un pêcheur, généralement, c'est de génération en génération. Mon grand-père faisait ça, mon père faisait ça. Et j'espère que mon fils le fera pas, parce que quand je vois déjà la situation qu'on est, c'est très compliqué, je voudrais pas qu'il fasse ça.
On a un peu résigné, quoi.
Entre le bateau et les moteurs, Jérémy a investi plus de 650 000 euros. Et vous l'avez entendu, aujourd'hui, à seulement 34 ans, il envisage concrètement de quitter le métier.
Et avec nous ici sur le quai du port de Boulogne, Olivier Leprêtre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du comité régional des pêches dans les Hauts-de-France. Vous nous disiez qu'il y a quelques pêcheurs comme Jérémy qui envisagent de quitter le métier. Alors parlons des licences pour pêcher dans les eaux britanniques, Olivier Leprêtre. Dans les Hauts-de-France, il en manque encore combien ?
Alors actuellement, on en a 39, on en a reçu 39, et il en manque encore 28 avec des preuves solides et 34 qui n'ont pas de preuves.
Donc 34 qui risquent vraiment d'avoir des difficultés à obtenir la licence.
34 qui sont évacués de la liste, et là c'est plutôt embêtant parce que ça va les obliger à revoir leur copie et pourquoi pas le plan de sortie de flotte, mais c'est franchement pas une solution parce que quand même à Boulogne, comme vous le savez, c'est le premier port de pêche français, et bien évidemment que toute la filière va en subir les conséquences.
Vous nous disiez il y a quelques minutes que les pêcheurs seront reçus demain à l'Elysée par Emmanuel Macron. Vous allez lui dire quoi ?
Alors déjà, c'est un honneur d'être reçu à l'Elysée pour nos problèmes. Donc déjà, c'est quand même déjà bien. Ce qu'on va lui dire, ce manque de licence qui va engendrer des problèmes économiques pour toute la région de France. Parce que la région de France, c'est la région la plus proche de l'Angleterre. Ouais. Et quand on sort du port de Boulogne, environ 40 minutes après, on est dans les eaux britanniques.
C'est ça qu'on réalise ici, c'est que vraiment les eaux britanniques sont tout près.
Ben, quand on est à Boulogne le soir, on voit les lumières du port de Douvres. Donc vous voyez, on est vraiment très proche.
Des nouvelles actions si jamais vous n'obtenez pas les licences ?
Ben écoutez, moi je me fais l'interlocuteur des professionnels. Si les professionnels veulent faire des actions, on les mènera à bien. Maintenant, c'est à eux de décider.
Merci Olivier Leprêtre. On vous retrouve tout à l'heure à la brasserie Le Châtillon. On va se rendre maintenant dans la partie industrielle du port. Marion, un chiffre pour poser le décor avant de vous laisser développer les autres titres. Il y a aujourd'hui deux fois moins de pêcheurs immatriculés à Boulogne-sur-Mer qu'il y a 10 ans.
Briser le cycle des violences qui a sombré depuis la rentrée le championnat de foot français. Pas moins de 6 matchs interrompus depuis le début de la saison. C'est l'objectif de l'arsenal de mesures annoncé ce matin par le gouvernement. Bonjour Alexandre.
Bonjour Marion.
Comment est-ce que l'exécutif compte prévenir ce genre d'incident ?
Il y a 3 mesures phares à retenir, si je puis dire. Un match sera systématiquement, désormais et définitivement interrompu lorsqu'un joueur ou un arbitre sera blessé par un projectile. En cas d'incident, une cellule de crise devra se prononcer en 30 minutes chrono sur le sort de la rencontre. La décision reviendra à l'arbitre ou au préfet s'il existe une crainte de troubles à l'ordre public. Les présidents de clubs concernés seront exclus désormais de cette réunion pour éviter tout conflit d'intérêt et tout pataquès. La personne qui prendra la décision sera la seule à communiquer. Et puis les bouteilles en plastique seront interdites au plus tard le 1er juillet prochain. Jusqu'à présent, on le rappelle, on pouvait entrer dans un stade avec la bouteille sans bouchon.
Oui, ces annonces, Alexandre, elles arrivent le jour même où Dimitri Payet publie une tribune inédite. Le meneur de jeu de l'Olympique de Marseille, il dénonce l'inaction des pouvoirs publics.
Oui, dans le journal Le Monde, le capitaine de l'OM a mis la pression ces dernières heures avant la réunion. Je cite, si on ne se sent pas protégé, on ne peut pas jouer. Il dénonce une forme de démission collective insupportable en souhaitant justement donc que la réunion de ce matin ne soit pas sans lendemain. L'international français a appelé aussi, c'est intéressant, les joueurs, c'est assez inédit, à se mobiliser. Je voudrais voir les deux capitaines, les deux entraîneurs se réunir dans le rond central et décider de ne pas reprendre, car cette idée doit venir. Notre chemin, nous devons le tracer parce que ça suffit.
Alexandre Vaux pour France Inter, merci à vous. Notre enquête récente sur les failles de sécurité dans les stades est à lire sur franceinter.fr. 4 200 000 spectateurs ont regardé le président de la République à la télévision hier soir. Score bien inférieur aux dernières interventions du chef de l'État pour ses 2 heures d'entretien sur TF1, intitulé « Emmanuel Macron ». Où va la France ? Quand je parle du destin de la France, Emmanuel Macron parle de lui, a-t-on ce matin le candidat d'extrême droite Éric Zemmour sur France Inter. Le candidat de la France insoumise, lui, Jean-Luc Mélenchon, critique, je cite, un moulin à paroles égocentré. Au Parti Socialiste, on accuse le président de ne pas avoir répondu à la question, justement, d'où va la France ? À droite, Valérie Pécresse est aujourd'hui en déplacement à Troyes. Anne Souhaitement, c'est une étape de campagne qui a permis à la candidate LR au passage de répondre aux attaques du président de la République.
Accueillie par son ancien compagnon au gouvernement, François Baroin, Valérie Pécresse continue à envoyer de petites cartes postales d'union ce matin à l'égard des centristes.
Et Marc Sébéron, que tu connais, premier adjoint à Troyes.
J'y vais écouter aussi bien que les centristes au territoire.
Un déplacement pour parler banque des jeunes et université.
Je viens parler de l'université, des jeunes, et effectivement de cette étape 2 de l'autonomie des universités qu'il va bien falloir faire un jour dans le pays.
Mais Valérie Pécresse en profite aussi pour répondre aux attaques à peine voilées du président hier soir. Interrogée sur la nécessité ou non de supprimer des postes de fonctionnaires, Emmanuel Macron a indirectement fait référence à la proposition de la candidate d'en supprimer 150 000, une option père fouettard, selon le chef de l'État.
Vous savez très bien quel est mon projet, c'est renforcer trois fonctions qui sont les fonctions essentielles de l'État, éduquer, protéger, soigner. C'est les trois fonctions dans lesquelles l'État doit remettre beaucoup plus de moyens.
Ça veut dire qu'on ne supprime pas dans ce secteur ?
Qu'on crée 50 000 postes dans ces secteurs.
Insister sur les 50 000 postes qu'elle veut créer plutôt que sur les 150 000 qu'elle veut supprimer pour éviter de se faire filloniser. Valérie Pécresse n'a pas oublié que les 500 000 suppressions de postes que voulait François Fillon en 2017 lui avaient collé à la peau. Mais l'entourage de Valérie Pécresse se frotte aussi les mains. En l'attaquant, Emmanuel Macron fait d'elle sa principale cible. C'est très bon pour nous, s'enthousiasme un proche.
Anne Souhaite-moi 3 dans l'Aube pour France Inter. Au cours de l'entretien d'hier, le président de la République a fait aussi quelques mea culpa. Emmanuel Macron a reconnu des erreurs dans la crise des gilets jaunes. Il a admis aussi regretter ses mots sur les gens qu'on croise dans les gares et qui ne sont rien. Pas convaincant pour la patronne du Rassemblement National, Marine Le Pen, qui lui décoche une pique depuis Mayotte, où elle est en déplacement.
Le j'ai changé, on nous le fait absolument à chaque fois qu'un président se représente. Plus personne, évidemment, n'y croit. Moi, j'ai trouvé en revanche cette phrase « J'ai appris à mieux aimer les Français » terrible. Terrible parce qu'on n'apprend pas à aimer les Français, on les aime. Et quand on est président de la République, être obligé d'apprendre à aimer les Français, ça veut tout dire en fait. Ça veut dire que tout le mépris dont il a fait preuve à l'égard des Français, cette ironie qu'il a en permanence livrée aux Français, mais en fait c'était le fond de sa pensée. Pour le reste, ça n'est pas une interview, c'est une longue page publicitaire de 2 heures. Dans lequel il est venu expliquer que tout va bien alors qu'en réalité tout va mal. Je suis pas sûr que beaucoup de Français soient convaincus par ça.
Marine Le Pen au micro France Inter d'Élodie Forêt. Peu d'annonces hier soir de la part d'un président qui se défend de faire de la politique. Emmanuel Macron n'a pas officialisé sa candidature pour la présidentielle de 2022. Il reconnaît toutefois continuer à se projeter. Le chef de l'État a d'ailleurs remis à plus tard la réforme des retraites qu'il juge toujours nécessaire, mais sous une autre forme. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
La fusion des 42 régimes de retraite n'est plus à l'ordre du jour. Le président évoque seulement un système simplifié avec 3 régimes.
Oui, avec au passage quand même la fin des régimes spéciaux, seule promesse d'ailleurs rescapée de la précédente réforme. Cette nouvelle proposition d'Emmanuel Macron est aux antipodes de la réforme universelle, car ce système à 3 branches ne résout rien sur le fond, glisse un chef de file syndical. Certes, la réforme a l'air simple en apparence. Un régime unique pour les fonctionnaires, un régime unique pour le secteur privé, un régime unique pour les indépendants. Mais lorsque l'on regarde sous le capot, la réforme reste techniquement tout aussi compliquée qu'un système universel. Elle ne mutualise pas les cotisations des Français, elle n'apporte pas d'avantages pour les salariés, s'étonne un spécialiste du sujet, car la problématique initiale était justement de conserver ses droits à la retraite. Lorsque l'on change de métier ou que l'on passe d'un statut à l'autre, Emmanuel Macron confirme qu'il faudra décaler l'âge légal du départ, tout en soulignant que les spécificités de certains métiers au départ anticipé seraient conservées. C'est le cas notamment des chauffeurs routiers, chauffeurs poids lourds cités par le chef de l'État. Ils bénéficient aujourd'hui d'un congé de fin d'activité leur permettant de partir 5 années auparavant.
Une esquisse de réforme alors que la DRES, une direction administrative de l'État, publie aujourd'hui une étude qui estime à 61 ans l'âge idéal de départ à la retraite. Chiffre tiré d'un questionnaire adressé aux nouveaux retraités. Hier, le président de la République a également défendu le bilan de son gouvernement en matière de pouvoir d'achat. Un pouvoir d'achat qui n'augmentera pas pour ceux qui touchent le SMIC l'an prochain. Confirmation de la ministre du Travail ce matin. L'augmentation du SMIC au 1er janvier s'élèvera à 0,9%, dit Elisabeth Borne, soit le montant de la hausse automatique liée à l'inflation. Vos questions à la ministre du Travail ce soir dès 19h20 sur Inter. Elisabeth Borne sera l'invitée de Fabienne Sintès au téléphone sonne. J'ai honte, les mots ce matin du directeur de Voyage SNCF face à cette grève qui diminue le trafic des trains, notamment sur l'axe sud-est ce week-end à l'heure des départs en vacances. un TGV sur deux devrait rouler sur les lignes Paris-Lyon et Paris-Marseille. Les syndicats réclament des hausses de salaire et des meilleures conditions de travail. L'UNSA a décidé de quitter le mouvement, mais Sud et la CGT maintiennent l'appel à cesser le travail. Si votre train est annulé, sachez que vous serez remboursé et que vous recevrez un bon d'achat du montant de votre billet. Et si la grève perturbe les congés pour certains, l'invité indésirable, c'est bien sûr, encore une fois, la Covid. Nouveau conseil de défense du gouvernement demain pour faire face à la cinquième vague et aux variants Omicron. 2800 patients Covid en réanimation aujourd'hui. L'exécutif redoute qu'on atteigne 4000 pendant les fêtes. Les hôpitaux réactivent leur plan blanc de mobilisation des ressources et des chirurgiens craignent une vague de déprogrammation catastrophique. L'une des armes pour faire face, c'est le pass sanitaire. Bonjour Ariane Gressel.
Bonjour.
Pass sanitaire parfois falsifié, mais le gouvernement réfléchit pour les fautifs à un système de repentir pour inciter à la vaccination.
Et oui, c'est une annonce hier d'Olivier Véran à l'Assemblée nationale. Certaines personnes qui veulent aujourd'hui finalement se faire vacciner ne peuvent pas parce qu'elles sont déjà enregistrées dans les logiciels comme détentrices d'un pass, alors que c'est un faux qu'elles ont obtenu sans la moindre dose. D'autres malades sont mal pris en charge parce qu'ils n'osent pas dire qu'ils ne sont pas vaccinés, d'où ce geste que se dit prêt à faire le gouvernement. Pour l'instant, on en est vraiment au stade des discussions entre ministères, donc santé, justice, intérieur. Le ministre Gérald Darmanin était ce matin l'invité des 4 vérités sur France 2. Il se dit favorable lui aussi à ce système de repentir.
L'important de ce sujet, c'est de protéger les personnes et de protéger les autres. D'accord. Donc si ces personnes spontanément se présentent pour dire finalement je m'aperçois de l'énorme bêtise que j'ai faite et je veux changer ça et avoir un vrai pass et me faire vacciner, évidemment nous serons indulgents. S'ils ne le font pas, nous les condamnerons.
Alors il va maintenant falloir réfléchir à comment organiser les choses. Pouvoir par exemple annuler les passes indûment délivrées, hein, débloquer les logiciels, définir aussi comment vont s'engager les détenteurs de passes à aller se faire vacciner, à qui ils vont devoir s'adresser. Encore beaucoup de questions, vous l'aurez compris. Pour l'instant, en tout cas, on le rappelle, détenir un faux pass sanitaire est passible de 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende. Le ministre de l'Intérieur a annoncé ce matin que 110 000 de ces faux documents ont été repérés à ce stade, 400 enquêtes ouvertes et plus d'une centaine de personnes interpellées.
Ariane Gressel pour France Inter, merci à vous. Et à l'hôpital, un rapport de l'inspection des affaires sociales réclame plus de place dans les services de soins intensifs. Document datant de juillet dernier, publié par Le Monde aujourd'hui. L'IGAS préconise 1000 lits de réanimation supplémentaires. Pour contenir la menace Omicron, la France durcit les conditions d'arrivée pour les voyageurs venus du Royaume-Uni. Il faudra dès samedi un motif impérieux pour traverser la Manche et arriver sur notre sol, que l'on soit vacciné ou non. Autrement dit, plus de voyages de tourisme ou d'affaires. Une victoire pour les librairies dans la guerre avec Amazon. Le Parlement vient d'adopter définitivement une proposition de loi qui impose un prix plancher pour les livraisons de livres. Mauvais pour le pouvoir d'achat, s'inquiète le géant du commerce en ligne. Le ministère de la Culture, lui, salue une loi qui permet de renforcer l'équité. Il n'y a jamais eu autant de journalistes emprisonnés dans le monde, 488 cette année, selon Reporters sans frontières dans son rapport annuel. La hausse est impressionnante, 20% de plus en un an. Dans 3 pays, surtout Biélorussie, Chine et Birmanie. Correspondance à Rangoon, Juliette Verlin.
Effectivement, Reporters sans frontières annonce 488 journalistes derrière les barreaux en 2021. Et d'après le rapport, c'est principalement le fait de 3 régimes dictatoriaux, le Bélarus, la Chine et la Birmanie. Le pays qui ne détenait que 2 journalistes avant le coup d'État en compte 53 au 1er décembre. La Birmanie rejoint aussi le classement des 5 plus grandes prisons de journalistes du monde. Depuis le coup d'État du 1er février, les centres de détention et d'interrogation se sont en effet multipliés. Aujourd'hui, alors que c'est trop dangereux de manifester en grand nombre, les journalistes sont en général enlevés chez eux et parfois alors qu'ils se cachaient en logement sécurisé. On a récemment appris la mort en centre d'interrogation du journaliste indépendant Soneng, qui a été arrêté vendredi dernier. Ces centres sont connus pour être des lieux de torture, et plus d'une centaine d'opposants politiques et de civils ont été tués en détention depuis le coup d'État, mais c'est le premier journaliste à y laisser la vie. Il est encore trop tôt pour dire si ce décès marque une nouvelle étape dans la violence de la junte contre les journalistes, mais la nouvelle a évidemment secoué la population et le monde des médias. Rangoon, Juliette Verlin, France Inter.
Un motif d'espoir tout de même, le nombre de journalistes tués s'élève à 46 cette année, c'est le plus bas niveau depuis 20 ans. 9 ans après, il revient sur vos écrans. Le tueur en série de Miami, le plus moral de la fiction télé, Dexter, reprend du service sur Canal+ ce soir. Ça s'appelle Dexter New Blood, Alexandra Akun, New Blood du sang frais donc, mais on retrouve aussi des vieilles ficelles.
Fini la chaleur de la Floride, lorsqu'on le retrouve, Dexter Morgan gambade dans la forêt enneigée d'Iron Lake, petite bourgade de l'État de New York, où le psychopathe justicier a refait sa vie sous une autre identité.
James Lindsay, hein?
Tiens.
Désormais vendeur d'articles de chasse et de pêche, son aptitude à passer pour un type normal sans aspérité fait des merveilles dans cette petite communauté.
Hey, Jimmy, morning. Coming line dancing tonight? Yeah, I wouldn't miss it, Pastor Brian.
Près de 10 ans qu'il n'a pas tué, un fils à papa cruel et lâche va réveiller ses pulsions meurtrières.
Guard up, dude.
Capacité à tromper son monde, dialogues intérieurs, amour des lames et du cellophane, tout ce qui a fait le sel de Dexter pendant 8 saisons dès 2006 est là, geyser d'hémoglobine compris. Pour la nouveauté, il y a aussi son fils, Harrison, désormais ado, à qui Dexter aurait peut-être transmis sa part d'ombre, et Debra, sa sœur, en fantôme qui harcèle sa conscience.
Everyone close.
Rien de très original, mais un vrai plaisir à renouer avec ce personnage d'anti-héros que Michael C. Hall réenfile comme un vieux jean confortable, de quoi faire oublier un final hautement décrié par les fans il y a 9 ans.
It's been a long time.
Et à 13h, presque 21h sur Inter, c'est le moment de retourner sur le quai de Boulogne-sur-Mer dans les Hauts-de-France pour ce 13-14 spécial pêche avec vous, Bruno Duvic.
Ouais, nous sommes passés du quai à la brasserie Le Châtillon, qui est également sur le port dans une autre zone de port. Il fait un peu plus chaud, absolument. Boulogne, premier port de pêche français. 5000 personnes ici vivent directement ou indirectement de la pêche. Nous allons parler de tout cela jusqu'à 14h. D'abord la météo.
Tu sais comment un vrai connaisseur comme moi choisit un foie gras ?
Bah tu regardes s'il est du sud-ouest.
Ah, tu es connaisseur toi aussi ?
IGP Canard à foie gras du sud-ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Occitanie.
Le tourbillon de la vie, le nouveau roman d'Aurélie Valogne. Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues. Ensemble, ils vont partager tous ces plaisirs simples qui font le sel de la vie. Le bonheur serait total si Arthur ne portait pas un lourd secret. Le tourbillon de la vie, d'Aurélie Valogne, aux éditions Fayard.
Le temps de ce jour.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
C'est un gris-blanc uniforme au-dessus de nos têtes à Boulogne-sur-Mer. Je crois que c'est le programme général, Sébastien Léas.
Oui, les nuages bas s'étirent encore sur une large moitié nord jusqu'à la Charente-Maritime, la Creuse, le Puy-de-Dôme, le Lyonnais, l'Isère et les plaines de la Drôme. Mais par endroits, de belles éclaircies arrivent quand même à se développer. On a d'ailleurs une poche de ciel bleu qui s'étend en ce moment entre l'Ille-et-Vilaine, l'Indre et la Sologne. Des éclaircies vont aussi se propager des hauteurs des Vosges et du Jura vers le plateau Lorrain et la Bourgogne. Et puis le temps va même devenir bien ensoleillé sur le Finistère et le golfe du Morbihan. Sur le reste de la moitié nord, en revanche, ainsi que les vallées du centre-est, le ciel restera encore bien chargé, l'ambiance plutôt grise. Pas exclu d'ailleurs que vous ayez quelques brunes sur le Boulonnais, entre les côtes charentaises et aquitaines jusqu'au Limousin, ainsi que sur les Pyrénées jusqu'aux régions méditerranéennes et sur les Alpes. C'est encore le soleil qui vous attend cet après-midi. Côté température, il fait encore assez frais sur le centre-est, à peine 3 degrés attendus à Saint-Étienne et 4 degrés à Lyon. Ailleurs, prévoyez 7 à 15 degrés, jusqu'à 17-18 degrés entre la Corse et la Côte d'Azur. Pour vous, Bruno, ce sera 11 degrés à Boulogne-sur-Mer ainsi qu'à Paris.
Bon, et je vous dis si la bruine arrive. Merci Sébastien Léas, Météo France. Il est 13h23.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Toujours sur le port de Boulogne-sur-Mer, à deux coups d'ailes de mouette du quai Gambetta où nous étions tout à l'heure, près des petits bateaux de pêche. Une centaine de bateaux immatriculés à Boulogne, premier port de pêche français. La ville, pour mémoire, compte 40 000 habitants. Là, nous sommes dans la zone plus industrielle du port, tout près d'un grand bassin où viennent s'amarrer les plus gros bateaux. Il y a un balai de camions autour de nous toute la matinée, camions qui chargent la marchandise pour la transporter dans toute la France et même au-delà. C'est l'autre poumon de la ville. Nous sommes à la brasserie Le Châtillon, au centre de cette zone. Ici, on sert le petit déjeuner dès 4 heures du matin pour tous ceux qui travaillent. Et dans cette brasserie où on tourne à 200 couverts par jour, eh bien, nous avons pris une petite table pour accueillir nos invités que je salue. Bonjour Olivier Leprêtre.
Bonjour.
Rebonjour, président du comité régional des pêches. Vous étiez avec nous tout à l'heure. Bonjour Bruno Margolet.
Bonjour.
Le président de la coopérative maritime étapoise. Et bonjour Thierry Messonnier.
Bonjour.
Directeur de From Nord, organisation de producteurs. Campons le décor, Olivier Leprêtre, à peu près 90 bateaux immatriculés ici à Boulogne. Où vont, où pêchent les pêcheurs de Boulogne et des Hauts-de-France? Où est-ce qu'ils vont? Dans quelle zone?
Alors les pêcheurs des Hauts-de-France, plus particulièrement Boulogne, ouais. Calais et Dunkerque, pêchent en Manche et Sud-Mer du Nord. Donc il faut savoir que quand on sort du port de Boulogne, 45 minutes après, on est dans les eaux britanniques. Ouais. Donc bien évidemment que c'est 100% des bateaux qui ont l'habitude de fréquenter les eaux britanniques tous les jours.
Ouais.
Donc les lieux de pêche sont vraiment...
100% des bateaux qui ont l'habitude de fréquenter les eaux britanniques. Tous les bateaux ici vont dans les eaux britanniques.
Presque tous. Et donc bien évidemment que c'est proche de Boulogne.
Thierry Missonnier, From Nord, c'est une organisation de producteurs avec de gros bateaux, y compris pêche en haute mer, y compris des navires congélateurs. 163 navires qui ne sont pas tous immatriculés à Boulogne.
Non, c'est alors ça. Tous les navires ne sont pas immatriculés à Boulogne. Nous avons 59 navires immatriculés à Boulogne, dont la majorité sont des petits navires, alors des filayeurs, mais aussi des chalutiers, et puis une flotte de pêche hauturière qui va sur des eaux beaucoup plus lointaines.
C'est-à-dire
qui sont Norvège, ouais. Nord de la mer du Nord, et qui sont elles aussi concernées par le Brexit, puisqu'elles sont dépendantes des accords passés entre l'Union européenne, ouais, et la Norvège par le passé, aujourd'hui des accords tripartites avec le Royaume-Uni. Et donc l'affaire du Brexit concerne bien évidemment la Manche. Nous sommes les frontaliers de cette affaire-là pour une bonne partie des navires en première ligne, mais aussi indirectement concerne l'ensemble des flottilles qui sont attachées à ce port.
Vos navires ont leur licence ou pas ?
Ben, ça dépend lesquels. Les licences sont délivrées au niveau de l'organisation de producteurs. Il en manque aujourd'hui 26, avec deux catégories. Les plus petits navires qui doivent attester de leur d'antériorité selon le traité, selon l'accord, qui doivent attester d'antériorité dans la zone aujourd'hui britannique sur une période 2012-2016. Oui. Des éléments de preuve pour ces petits navires sont très difficiles à réunir. Parce qu'ils n'ont pas de VMS, un moyen d'identification qu'ont, ouais, les plus gros navires. Donc il a fallu accumuler depuis le début de l'année des indices, des éléments de preuve. Et c'est au bon vouloir des Britanniques qui les acceptent ou qui ne les acceptent pas.
Bruno Margolet, qu'est-ce qu'on pêche et qu'est-ce qu'on travaille à Boulogne ? D'abord, précisons que vous, la coopérative maritime étapoise, on valorise la pêche et on fournit des services. Ça veut dire quoi, d'abord ? Valoriser la pêche, fournir des services, le métier consiste en quoi ?
En fait, si vous voulez, la coopérative est là pour apporter une multitude de services aux pêcheurs. Ça part de la fourniture de carburant jusqu'à la commercialisation du poisson.
Oui.
Donc la commercialisation du poisson, ça part aussi, le bateau rentre, il débarque directement dans le module et c'est la coopérative qui prend en charge toute la pêche des bateaux, oui, et qui le met en criée, tout simplement.
Qu'est-ce qu'on travaille comme produit ici, plus particulièrement ?
Bah, ça dépend les saisons, bien entendu.
Évidemment.
Mais actuellement, on est plutôt sur de l'encorné, un peu de maquereau. Mais c'est essentiellement l'encorné. Les gens ciblent l'encorné en fin d'année, qui est présent là, dans le détroit du Pas-de-Calais. Et bon, à la veille des fêtes, c'est un produit qui est vendu correctement.
Olivier Leprêtre, vous nous disiez tout à l'heure, pour ce qui concerne les pêcheurs des Hauts-de-France, 39 licences acquises, 28 où il y a encore une négociation possible, c'est-à-dire qu'ils fournissent des preuves, pour l'instant ça ne suffit pas, et 34 qui vont être mis de côté. Les 34, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un vrai risque qu'ils doivent mettre la clé sous le bateau, si j'ose dire.
Bah pour les 34 où il n'y a aucune preuve, c'est vraiment très embêtant. Mmh. Et ils risquent de mettre la clé sous le paillasson, malheureusement. Mmh. Peut-être pas en totalité, mais en partie. Une chose est certaine, ils seront obligés de revoir leur copie, peut-être leur façon de pêcher aussi. Et pour quelques-uns d'entre eux, prendre un plan de sortie de flotte, malheureusement. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plan de sortie de flotte, c'est pas la solution. Parce que derrière, il y a quand même toute une filière qui en vit. Il faut savoir qu'un pêcheur fait vivre 5 personnes à terre.
Oui.
Donc bien évidemment que c'est pas la meilleure des solutions. Parce que c'est tout le côté économique du Boulonnais et de la région qui va en prendre un sacré coup.
Et puis le plan de sortie de flotte, quand vous n'obtenez pas la licence, revendre son bateau le cas échéant, c'est évidemment l'enfer.
Ah ben, bien évidemment que le fait de ne pas avoir la licence britannique, sur le prix de vente du bateau, ça influe. Parce que comme c'est droit, enfin, sa façon de pêcher n'est plus la même, et surtout les endroits autorisés ne sont plus les mêmes, donc bien évidemment qu'au niveau du prix de revente, c'est très compliqué.
Demain, donc, les pêcheurs voient Emmanuel Macron. J'imagine qu'il y a réflexion autour de est-ce qu'on mène des actions ou pas, est-ce qu'on appelle à des mesures de rétorsion ou pas. Ce qui est compliqué, c'est que, alors au plan national, hein, on imagine qu'ici c'est beaucoup plus, 25% des prises françaises se font dans les eaux britanniques, mais à l'inverse, 70% des produits de la mer britannique sont exportés vers l'Europe. On vit en partie des produits britanniques ici à Boulogne. C'est compliqué d'envisager des mesures de rétorsion, Thierry Missonnier.
Oui, bah effectivement, il y a une filière et en fait, ce sont des productions qui sont historiquement complémentaires. Ouais. Alors ici, c'est beaucoup plus que 26% des prises dans les eaux britanniques. Je crois que on était arrivé à 60% des chiffres d'affaires des navires. Au début d'année, on avait commencé à faire les premières estimations qui étaient pêchées dans les eaux qui sont aujourd'hui les eaux strictement britanniques. Mais Boulogne, c'est aussi une plateforme d'importation, de transformation, de valorisation des produits ouverts sur le marché européen. C'est ici que se fait une bonne partie de la valeur ajoutée, y compris des pêches qui viennent du Royaume britannique.
Mais ça veut dire que s'il y a des pêcheurs désespérés qui se disent on va mener des actions de blocage, on va aller au conflit avec les Britanniques, vous pouvez leur dire, attention, il y a aussi des centaines de personnes qui vivent des produits britanniques.
Il y a aussi toute la filière, effectivement, dont il faut prendre compte. Donc on peut comprendre la réaction des pêcheurs qui se voient privés d'accès et qui, peuvent manifester. Mais effectivement, bien prendre conscience que ces produits sont complémentaires, que pour un grossiste qui achète sur Boulogne, quand un camion part de Boulogne, il complète à la fois par des produits locaux qui sont extrêmement divers, on en a cité quelques-uns, mais ce qui fait la force aussi de nos pêcheries, c'est d'avoir des flottilles diversifiées avec des modes de pêche diversifiés, des espèces diversifiées dans l'année, et puis des importations qui arrivent ici, souvent sur des espèces, sur 3 ou 4 espèces, et rarement beaucoup plus, et l'ensemble se complète pour approvisionner les marchés, les magasins de marée ici, puis les marchés derrière.
Bruno Margolet, les pêcheurs voient Emmanuel Macron demain, c'est ce que nous disait Olivier Leprêtre. Vous attendez quoi du président à ce stade de l'année et des négociations avec les Britanniques?
Écoutez, je pense que la question à poser, c'est est-ce que aujourd'hui on se contente de ce qui a déjà été fait ou est-ce qu'on continue le combat? La question que je pense poser au président de la République, c'est...
Et combat, ça veut dire quoi, pardon?
Combat, c'est mesure de rétorsion, c'est est-ce qu'on continue comment tout ce qui a été mis en place, parce que faut savoir que dans 5 ans on les accords qui ont été passés, c'était enfin en 2026.
Oui, on va en parler dans un instant.
Tout ça retombe. Oui. Mais la question aujourd'hui, est-ce qu'on se contente des 93% au niveau national des licences qui ont été acquises, ou est-ce qu'on continue, parce que sachant que la France va prendre la présidence de la Commission européenne.
De l'Union européenne.
De l'Union européenne, bien entendu. Est-ce que on met tout ça en sourdine? Et on sait pertinemment que dans les Hauts-de-France particulièrement, le compte n'y est pas.
Alors autour de la table ici au Châtillon, il y a avec nous Thibault Lefèvre qui nous accompagne pour cette émission. Thibault, on retrouve le pêcheur boulonnais avec qui nous avons commencé cette émission. Vous êtes allé en mer une nuit avec lui, Jérémy Lomel, patron du Jérémy Florent 2. Alors là, on est dans la cabine du bateau, Thibault, devant l'écran d'ordinateur où on peut voir tous les bateaux dans la zone. On est à une petite heure de mer de Boulogne, au large de la plage d'Ardelot, c'est bien ça?
Tout à fait.
Et il y a beaucoup trop de monde dans la zone. Jérémy, regarde la carte sur son écran avec vous.
Le bateau se situe là, c'est le bateau qui clignote. On voit les côtes françaises et bien sûr les côtes britanniques. On est obligé de se reconcentrer vraiment dans nos eaux à nous et on est obligé de se mélanger, nous, filets et tout ce qui est étranger. La cohabitation, des fois, elle n'est pas terrible, quoi. C'est pas évident. Tous ces pays qui viennent, c'est dans une si petite mer et qu'on rattrécit encore la zone, ça va être très compliqué. L'épuisement des ressources, c'est qu'on voit plus aucun chalet, turbo, cabillaud. Avec les seigneurs hollandais, avec leur technique de pêche qui est efficace à 10 000%, ils ramassent tout, ils arrivent à pêcher tout. C'est un système de grands filets en fait qui entoure. Et en refermant, en fait, ça fait des vibrations dans le sol. Le poisson, il est effrayé, avec les vibrations, il reste au milieu et en fait, il ramasse tout, quoi. Il pêche du poisson que nous, on voit plus, quoi. Donc, c'est vraiment que leur technique de pêche, elle est infaillible.
Olivier Leprêtre, président du comité régional des pêches, ce témoignage amène une question toute simple. Y a-t-il trop de bateaux de pêche français?
Oui. Pêche française, non. Mais en Manche, oui. Tout simplement, c'est facilement explicable. Avec l'effet Brexit, si vous voulez, il y a eu un report d'efforts de pêche. C'est-à-dire que les bateaux qui ne peuvent pas accéder dans les eaux britanniques se rabattent sur les eaux françaises. Donc systématiquement, on se retrouve avec la flotte française, la flotte belge et la flotte hollandaise dans ce qu'on appelle la zone économique exclusive française. Donc beaucoup trop de bateaux, technique de pêche hyper performante pour les Hollandais, ce qui provoque une surexploitation de la ressource et bien évidemment moins de poissons.
Mais pardon, j'imagine que tout le monde va dire, les Néerlandais, les Danois, etc. vont dire, ben non, il n'y a pas trop de pêcheurs néerlandais, mais il y a trop de pêcheurs tout court. Les Français vont dire, ben non, il n'y a pas trop de pêcheurs français, mais il y a trop de pêcheurs tout court. Est-ce qu'à un moment, la question n'est pas celle de la réduction globale du nombre de pêcheurs qui opèrent dans ces eaux ?
Oui et non, parce que tout est sous contrôle quand même au niveau européen. Et
les quotas qui sont négociés en début
de semaine. Les quotas sont négociés, tout est calculé, tout est bien calculé. Donc moi, de ce côté-là, dire qu'il y a trop de bateaux, je ne pense pas, mais il faut faire attention à ce qu'on fait, c'est tout. On doit avoir une bonne gestion sur la ressource.
Bruno Margollet, je vous entendais réagir un peu vivement quand je pose la question, y a-t-il trop de bateaux français dans ces eaux ? Là, les eaux où on était avec Thibault en reportage, c'est des eaux françaises. Est-ce qu'il y a trop de bateaux ?
Bah, clairement, Olivier vient de l'exprimer. Majorité des bateaux aujourd'hui sont dans la zone exclusive européenne française. Du fait que, justement, avec le Brexit, il faut savoir que même dans la ZEE anglaise, les Anglais ont déjà adopté des mesures
de restriction.
Non, pas de restriction, des nouvelles mesures de.
Ah, les filets.
De filets, ouais.
Voilà, la taille des filets.
Pardon, excusez-moi. Des nouvelles mesures techniques, et malgré tout, ces mesures techniques-là, quand vous avez un garde-pêche qui vient chez vous, dans le bateau, il reste 3 heures à bord, minimum. Donc, les gens, ils évitent d'aller dans la zone, enfin, plus ou moins dans la zone anglaise pour éviter ces contrôles drastiques et qui pénalisent complètement votre journée.
Thierry Messonnier, on entendait une autre chose dans le témoignage recueilli par Thibault. Les Néerlandais, avec leur technique qui fait trembler la terre et faire monter les poissons, obtiennent une pêche beaucoup plus importante. Pourquoi, cette technique n'est pas utilisée par les Français ? En gros, est-ce que les Néerlandais sont plus avancés que nous ?
Alors, cette technique, si on parle de la Seine, pense qu'on parle de la Seine, elle est aussi utilisée par des navires français qui sont pas tous de la même taille, mais qui sont plus petits, mais qui sont aussi utilisés par des navires français. Donc, c'est une technique de pêche qui n'est pas nouvelle d'ailleurs, qui commence à avoir plus d'une dizaine d'années dans le. Voilà. Après, il y a effectivement un problème de concentration. Lié au Brexit, les difficultés qui viennent d'être soulignées parce qu'on parle des licences, mais reste à savoir, une fois qu'on a une licence, qu'on peut, pour ceux qui ont des licences, qui ont réussi à les avoir, ce qu'ils vont pouvoir en faire dans la zone britannique. Et là-dessus, on a deux sujets, celui des mesures techniques qui sont pour le moment, qui doivent être, d'après le traité, notifiées par le Royaume-Uni à l'Union européenne.
On y revient dans une espèce
qui ne sont pas sous quota.
Voilà, on y revient dans une seconde. Je voudrais insister sur la concurrence. Est-ce qu'il y a une concurrence européenne très vive, trop vive, avec des navires plus gros, plus efficaces que les navires français ?
Alors,
Bruno Margollet lève les épaules. Oui, non ? Un peu ?
On n'est pas à armes égales, bien entendu.
Pourquoi ?
Parce que c'est pas du tout les mêmes capacités de pêche. C'est des bateaux quand même qui ont des capacités de pêche beaucoup plus importantes que nous. C'est des bateaux qui font au minimum 28, 30, 35 mètres, si vous voulez.
Et ma question, c'est pourquoi là, les pêcheurs français ne sont pas équipés de ces bateaux-là ?
Bah déjà, c'est un coût, hein, bateau comme ça, c'est un coût. C'est des gens qui ont investi il y a une dizaine d'années, dans 7, 8, 10 ans, qu'ils ont investi dans des unités beaucoup plus performante, si on peut dire. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que il y a deux méthodes de pêche qui sont beaucoup plus drastiques l'une que l'autre.
La course à la taille, Thierry Messonnier, vous y participez avec vos bateaux à vous. Voilà, il y a aussi une course à la taille
les navires de pêche hauturière. Ouais. Non, les navires de pêche hauturière, déjà leur nombre a considérablement diminué. Il faut savoir que la pêche hauturière française, c'est aujourd'hui très peu d'armement et très peu de navires. Et quand ils ont été remplacés selon les règles européennes par des navires en cumulant les antériorités des navires précédentes si nécessaire, mais sans jamais augmenter la puissance et la taille de ces navires en prenant les antériorités. Donc on est dans une diminution globale au niveau européen, on est dans une diminution globale des capacités de capture depuis quelques années. Je donne simplement un chiffre.
Et ma question, c'est est-ce qu'il y a encore de la place pour les petits bateaux comme celui sur lesquels est monté Thibault ?
Bien sûr. Enfin, je pense que, enfin, je l'espère en tout cas.
Ce qui n'est pas la même chose.
Non, mais bien sûr qu'il y a de la place pour les petits bateaux. Il y a quand même des petits bateaux qui aujourd'hui travaillent. Alors, on a des problèmes liés au Brexit, on a des problèmes liés aux évolutions de la ressource. Bon, si on prend un exemple, il y a eu une diminution des quantités de sol en mer depuis plusieurs années, donc une diminution des quotas. Une partie de cette flottille s'est reconvertie au casier sur les petits navires, hein, sur les crustacés, sur le bulot. Bon, pas de chance, l'essentiel des gisements sur ces espèces-là sont en zone britannique aujourd'hui. Ceux qui ont des licences vont pouvoir aller travailler, les autres pas, et donc trouveront pas ces espèces-là du côté européen. Mais heureusement, mais vous savez, les pêcheries, les gros bateaux ne sont pas... On parlait des bateaux de Renord, ils sont jamais dans la zone de pêche des petits bateaux ici. Les pêches sont là aussi complémentaires et pas toujours concurrentes.
Diminution des ressources, c'est un vrai problème, Olivier Leprêtre ?
Oui, c'est un vrai problème. Et je vais rebondir sur ce qui a été dit. Il n'y a pas de mauvaise technique de pêche. Ce qui tue, c'est le gigantisme. C'est ça qui tue. Parce qu'on part dans des démesures et là, c'est ce qui se passe pour les Hollandais. Après, ceci dit, sur ce qu'il vient de dire M. Missionnier, il a tout à fait raison, il y a la place pour tout le monde. Il y a les gros bateaux, partout où ils vont, le principal, c'est que ce ne soit pas au pied de côte. Voilà. Donc, nous, notre problème...
Le pied de côte, c'est quoi ?
Très proche de la côte. Ouais. Et comme la Manche, c'est une petite mer, bien évidemment qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. Alors, restons dans des tailles correctes pour respecter la ressource, parce que s'il n'y a plus de ressources, bien évidemment qu'il n'y a plus de pêcheurs.
Deux questions, l'émission file vite. Les quotas qui se négocient, notamment en début de semaine en Europe, est-ce qu'il y a des problèmes pour les pêcheurs ici dans les Hauts-de-France, ou la question des quotas pose des problèmes plutôt en Méditerranée ? Bruno Margolet ?
Bah écoutez, nous, malheureusement, on fait partie on appelle ça des stocks partagés. Donc, aujourd'hui, on nous a attribué que 25% d'un rollover des quotas de 2021 parce que entre les Anglais.
Vous perdez les trois quarts du quota, je
vous ai compris. Non, on les perd pas. On les perd pas. On nous attribue, là, pour le premier trimestre, que 25% des quotas parce que les tractations, enfin, avec le Royaume-Uni ne sont pas terminées. Donc, c'est assez compliqué pour certaines flottilles, bien entendu, qui ciblent plus, on va dire, le maquereau ou autre chose, suivant les périodes de l'année. Et ça va être compliqué pour certaines flottilles.
Mais c'est moins compliqué que pour les pêcheurs en Méditerranée, on est d'accord. La question des quotas est moins. Thierry Missonnier ?
Potentiellement, non. En fait, il y a deux choses. Il y a un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni où on doit départager les quotas sur la zone parce qu'on est sur une ressource qui est en mer et qui n'a pas de frontières. Donc, ce départage n'est pas terminé. Et donc, par anticipation et pour nous permettre de commencer l'année, on aura une attribution provisoire de quotas qui sera réajusté dans l'année si l'accord avec les Britanniques est passé.
Et en 2026, tout ça est remis sur la table, puisque théoriquement, à partir de 2026, les prises des Français dans les eaux britanniques doivent diminuer d'un quart. C'est bien cela ?
On ne sait pas encore. J'espère que non. En tout cas, ce qui est prévu dans l'accord aujourd'hui, c'est une diminution de 25% de la part européenne dans les eaux britanniques sur l'accord 2021-2026. Ouais. Et tout est renégocié à partir de 2026.
Donc les négociations vont continuer et chaque année, ce sera sans doute tendu. Alors la vie des pêcheurs, Thibault Lefebvre, c'est aussi la possibilité de croiser des migrants qui essaient de traverser la Manche et rejoindre la Grande-Bretagne. Comment aider ceux qui risquent de faire naufrage ? On vous retrouve, Thibault, avec Jérémy Lomel.
Oui, c'est l'angoisse, hein, Bruno, des pêcheurs boulonnais quand ils partent en mer, percuter de nuit une embarcation de migrants. Et la dernière fois que Jérémy a croisé un bateau pneumatique, eh bien, c'était il y a un peu plus d'un mois et demi.
On était en train de pêcher, c'était un petit bateau, et on a été voir vraiment s'ils n'étaient pas en difficulté, tout ça. On n'a pas pu les approcher, ils se menacent de sauter, ils disent de t'en aller. Et puis, ça bougeait un petit peu, on leur a dit il faut continuer dans cette direction-là, quoi. Pour qu'ils arrivent vraiment à bon port, comme on dit. Mais si j'ai pas le droit, je leur fais voir quand même où est-ce qu'elle est la route, quoi. Pas donner bonne conscience.
Un délit de solidarité assumé et puis des habitudes de navigation qui changent.
Toujours un petit coup de projecteur quand même pour vérifier quoi, s'il y a personne, quoi. L'œil nu, on les voit pas, dans le noir, il fait noir, donc tu vois rien. Donc. J'espère un jour pas en croiser un dans le noir et de le percuter parce que là, ça fait vraiment du dégât. Ouais. Et puis là, ouais, je m'en voudrais toute ma vie. Ouais. Et on en voit de plus en plus. C'est venu un fléau qui s'est intensifié, je vous dis, depuis les deux dernières années. C'est impressionnant.
Et notamment les jours de pleine lune, quand le ciel est clair et la mer est calme, les départs des plages autour de Boulogne sont nombreux. Pour vous donner une idée, depuis deux ans, Jérémy a croisé quatre embarcations de migrants qui évidemment se dirigeaient vers les côtes anglaises à 25 km d'ici.
Bruno Margolet, votre fils qui est également en mer, on en parle dans un instant, beaucoup de choses sont des affaires de famille ici, a rencontré une situation comme celle-ci.
Oui, en août dernier... Ils ont secouru six migrants qui étaient à l'eau. Leur embarcation était crevée. Donc il y avait six migrants, ça faisait une heure et demie, voire deux heures qu'ils étaient à l'eau, qu'ils ont récupéré, bien entendu, pour les sauver. Il y en a eu malheureusement un qui est décédé et qui a été récupéré directement par les affaires maritimes. Mais c'est des chocs, quoi. C'est pas normal. C'est souvent qu'ils rencontrent des embarcations qui traversent dès qu'il fait beau temps, surtout, c'est le quotidien qui voit régulièrement des embarcations. Il y a 30, 40 personnes. Ils leur font signe même quand ils sont du côté britannique de venir les escorter pour.
Ça fait partie aussi de la vie des pêcheurs en Manche. Merci à tous les trois d'être venus autour de la table. J'accueille nos deux invités suivants. Bonjour Aymeric Chan.
Bonjour.
Secrétaire général du mariage boulonnais. Le mariage, je crois que c'est 1300 salariés à Boulogne.
Oui, à peu près. On est un petit 1500 salariés, effectivement.
Sur une ville, encore une fois, de 40 000 habitants où 5 000 personnes vivent directement ou indirectement de la pêche. C'est quoi le mariage ?
Alors le mariage, c'est l'opérateur qui achète le poisson directement au producteur. On appelle ça le premier achat.
Oui.
Donc soit en direct, soit via une criée. Ouais. Et qui effectivement réalise également des importations.
D'accord. Et vous en faites quoi de ce poisson ?
Ce poisson, on essaye de le travailler aussi bien que possible avec une partie qui est effectivement la marée traditionnelle, c'est-à-dire conditionner le poisson entier, l'expédier selon des critères de qualité et de calibre.
Ouais.
Et la spécialité de Boulogne, c'est effectivement le filetage.
Ouais.
Donc on découpe
faire des
le
filets,
poisson,
voilà.
Voilà, on extrait les filets et on reste dans l'univers du poisson cru. Hein, dès l'instant qu'on ajoute du sel, on change de métier. Dès l'instant qu'on ajoute de la cuisson, de la surgélation, on change de métier. Le métier du marailleur, c'est le cru.
Et les produits partent où ?
Partout en Europe. Alors partout, j'allais dire dans le monde, c'est pas tout à fait vrai, même si on a des exports lointaines, mais c'est essentiellement en Europe, hein, parce qu'on est sur du produit frais et qu'il y a une DLC, une durée de vie qui est quand même relativement limitée. Mais toute l'Europe avec effectivement pour la production boulonnaise une grosse clientèle bien évidemment en France, sur les pays limitrophes, hein, Belgique, Luxembourg, Allemagne, et surtout un gros volume d'exportation en Europe du Sud,
Europe
Espagne,
du
Italie.
Ouais. Le poisson qui arrive dans le bateau et que vous prenez et qui ensuite est en Espagne, par exemple dans le sud de l'Espagne, il y a combien de temps entre arriver au port de pêche et arriver
Écoutez, le poisson qui a été proposé à la vente en criée ce matin a été traité. Hein, ce matin, la criée, c'était 6 heures. Il est dans les magasins 6h30, 7h. Il est dans les camions à 8h, 8h30 pour les départs les plus lointains. Et il arrive à la frontière espagnole ou italienne dans la nuit pour être distribué le lendemain matin en Espagne et en Italie.
Ça
va extrêmement vite.
Vous parlez de la criée, mais on ne crie plus à la criée. Hein.
C'est une criée muette.
C'est une criée muette.
Beaucoup d'instituteurs rêveraient d'avoir une glace comme celle-là.
Quand vous parliez de sel, tout à l'heure, vous désignez notre autre invité. Bonjour Cédric Coru.
Bonjour.
Directeur commercial des Salaisons Coru. Alors, je le disais, il y a beaucoup d'histoires de famille ici à Boulogne, que ce soit les bateaux de pêche, les entreprises, etc. Vous, ça commence quand l'histoire de famille ?
Depuis plus d'un siècle, avec mon frère Pierre, on représente aujourd'hui la quatrième génération à saler et fumer le poisson.
Quatrième génération, c'était votre arrière-grand-mère, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait, oui.
Au début du XXe siècle. Elle faisait du hareng ?
Oui, tout à fait, c'était sa spécialité. Elle a commencé à fumer son hareng dans la cour, qu'elle allait vendre directement sur les marchés.
Et vous faites quoi ?
Nous, on s'est diversifié depuis. On s'est diversifié au niveau des espèces. Donc, le cœur de notre métier reste le hareng, parce que le hareng est roi à Boulogne-sur-Mer. Mais
il y a une fête du hareng, je crois.
Tout à fait. Ouais. Tous les ans, au mois de novembre.
Okay.
Et après, on travaille du maquereau, de l'aigle fin, du saumon fumé, notamment en ce moment, du flétan, de la truite, beaucoup d'autres espèces qu'on peut saler et fumer.
Produits qui viennent d'où ?
Qui viennent un peu partout dans le monde.
Et que des pêcheurs de quelle nationalité vous apportent ?
Bon,
parce que ce que je voudrais qu'on touche du doigt avec vous deux, c'est l'aspect européen et international de ce qui se passe à Boulogne.
En fonction des espèces qu'on achète et de la taille du poisson qu'on achète, vient d'un peu partout dans le monde. La saumonette vient des États-Unis, le maquereau peut venir d'Écosse, l'aigle fin, je vous dis, un peu partout dans le monde. Le saumon vient de Norvège ou d'Écosse. Donc on parlait tout à l'heure du Brexit. Forcément, quand on achète du saumon écossais, ça a un impact directement sur nos achats de matières premières. Hein.
Ouais.
C'est la logistique est un peu plus compliquée, un peu plus longue. Et donc, à un moment, ça a un impact sur le prix pour nous et après pour le consommateur, malheureusement.
Et ça veut dire aussi, on entendait tout à l'heure au Châtillon, juste devant, là, des Anglais qui discutaient entre eux. Ça veut dire, l'un comme l'autre, que vous travaillez avec des pêcheurs anglais.
Oui, tout à fait. Si on essaye de schématiser un petit peu ce qui est fait sur Boulogne, bon, c'est le premier port de pêche de France.
Oui.
C'est une des toutes premières plateformes européennes, hein, pour le commerce et la transformation de poissons. Il doit se traiter à peu près annuellement aux alentours de 350 000 tonnes, hein, à mettre en rapport avec les 25-30 000 tonnes qui sont débarquées en criée.
25 000 tonnes de produits locaux, 10 fois plus de produits internationaux,
voilà,
disons-le comme ça.
Traités ou négociés. Ouais. Alors, il faut bien faire la part des choses entre deux types de produits, le frais et le surgelé.
Ouais.
Hein, le surgelé, effectivement, peut venir d'assez loin, parfois d'origine lointaine. Ouais. Pour ce qui est du frais, on reste quand même au niveau européen.
Ouais.
Sachant que les grandes zones de pêche comme qui nous concernent sont globalement les zones qui sont situées autour des îles anglaises. Hein, donc, effectivement, c'est cette zone qui est fréquentée par les flottilles boulonnaises, les flottilles belges, hollandaises, britanniques, danoises. Donc voilà, c'est quand même une grosse zone de pêche qui est fréquentée par tout le monde. Donc on peut avoir du produit globalement identique qui vienne de toutes ses origines, en poisson frais, avec une spécialité quand même et une qualité de nos flottilles locales, bien évidemment.
Mais ça veut dire évidemment qu'on a parlé de la défense des pêcheurs français depuis 13 heures avec nos précédents invités. On ne peut pas raisonner que en franco-français.
On peut pas raisonner que franco-français, parce que ce qui est important pour tout le monde, c'est que il faut effectivement qu'il y ait une filière forte à tout niveau pour pouvoir valoriser au mieux le métier des uns et des autres.
Oui.
S'il y avait un mariage faible ou peu de mariage sur Boulogne, les flottilles locales auraient du mal à valoriser correctement leurs produits. Donc il y a une solidarité de fait qui se crée. C'est une filière qui va de bout en bout, de la production jusqu'à la logistique, qui est également un élément important sur la plateforme boulonnaise.
Cédric Coru, on approche des fêtes. À quoi est-ce qu'on reconnaît un bon saumon fumé ? Bon sang de bois.
Alors, un bon saumon fumé, on le reconnaît à sa couleur, à son aspect.
Quelle couleur ? Quel aspect ?
Non, mais tout dépend du processus de fumaison.
Ouais.
On a tous différentes manières de travailler. À Boulogne, il reste aujourd'hui 4 salaisons qui sont des gens sérieux. Je parle même pas de concurrence, mais plutôt de confrères.
Ouais.
Les gens qui sont sur la place, on peut dire que c'est des gens qui travaillent très bien. Nous, on fume encore de manière traditionnelle, ce qu'on appelle chez nous des corrèzes. C'est des grandes cheminées, en fait.
Ouais.
Et on prend le temps de bien fumer le produit. Ce que je dis en ce moment, c'est il faut pas qu'un produit soit seulement fumé en surface, mais aussi à cœur. C'est important. Parce que le fait de fumer de manière traditionnelle, comme on le fait avec, dans nos grandes cheminées, on va fumer par exemple un saumon fumé, ça va prendre plus de 20 heures de temps de fumage.
Ouais.
Alors qu'en fumoir électrique, ça va durer 10 heures.
Et vous avez deux techniques, pardon, à chaud et à froid. Hein.
C'est ça.
Ouais.
Alors tout ce qui est fumé à froid, comme le saumon fumé, c'est fumé à froid.
Ouais.
Mais on peut faire des filets de maquereau, ça c'est fumé à chaud. Donc on monte à des températures plus importantes. Et là, on peut pas fumer dans des corrèzes traditionnelles. On utilise un générateur électrique, mais on utilise de la sciure de hêtre. Et vraiment, l'essence de bois est importante pour le processus de fumaison. C'est ce qui va apporter ce goût si particulier à nos produits.
L'importance des périodes de fête, pour vous, quelle est-elle ?
C'est important parce que justement, pour vous donner quelques chiffres, on fait 50 tonnes de saumon fumé par an,
oui.
Et la moitié de notre production au mois de décembre. Donc ça représente la moitié de notre volume. Et aujourd'hui, dans notre part de chiffre d'affaires, c'est un peu plus de 18% de notre chiffre d'affaires, le saumon fumé.
Est-ce que vous savez pourquoi le saumon, ce poisson, a pris une telle importance dans nos assiettes au rayon poisson ?
C'est difficile, les habitudes de consommation ont vraiment changé. Les gens, peut-être que c'est le côté facile et pratique de manger du saumon ouais. fumé, ils prennent moins le temps de cuisiner que nos parents.
Ouais.
Et moi, je regrette un petit peu ça, parce que moi, j'étais éduqué où justement, tous ces produits festifs se mangeaient uniquement au repas de famille, ouais. Au baptême, aux communions et à Noël. Et aujourd'hui, c'est vrai, effectivement, vous avez raison de souligner ça, on en mange un petit peu à tout va, et je trouve ça un peu regrettable.
Aymeric Chan, l'importance de cette période des fêtes pour les marées ici à Boulogne, elle est grande aussi, j'imagine.
Alors, ça dépend des entreprises.
Oui. Hein,
soit vous avez des entreprises qui sont spécialisées dans les produits festifs. Hein, on a parlé du saumon, mais également tout
la
ce qui est crustacé.
Oui.
La Saint-Jacques également, qu'on vend sur toute la période correctement. Hein, mais effectivement, il y a un pic en fin d'année. Et il y a d'autres entreprises, celles qui sont plus spécialisées dans le filetage de poissons blancs ou l'export de petits poissons, où là, c'est pas forcément une période plus forte que les autres.
Je reprends ma petite feuille où j'ai noté les prix du marché ce matin, les prix des boutiques près des bateaux. La sole autour de 30 euros le kilo, la noix de Saint-Jacques à 46. Je voudrais m'arrêter sur la sole. Il y a un moment où le manque de ressources se traduit forcément dans le prix pour le consommateur.
Alors oui, ça peut être manque de ressources ou
parce
ça
que
peut être...
La sole, on va l'entendre, je crois, dans un témoignage recueilli par Thibault, il n'y a pas longtemps, elle était deux fois moins chère. Là, Noël approche, on est d'accord. Hein.
Alors, le manque de ressources, c'est, Effectivement, ça peut être une part d'explication. C'est simplement aussi le rapport entre l'offre et la demande.
Oui.
Hein, on est sur des périodes de pêche relativement faibles en matière de sol. Donc logiquement, le prix a tendance à augmenter. Alors attention, n'annoncez pas ces prix-là aux Parisiens, sinon ils vont être déçus. Hein, il faut rajouter quand même les frais de transport, tout ce qui va derrière.
Oui, bon, c'est noté. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir. Un dernier témoignage dans le bateau de Jérémy Lemel qu'on suit grâce à Thibault Lefèvre depuis le début de cette émission. À côté du bateau, il y a la boutique de sa femme, Cynthia, qui vend la prise de son mari aux habitants de Boulogne sur le quai Gambetta où on a commencé cette émission. Et Thibault, vous avez discuté avec elle hier matin après votre nuit en mer. Il était 8h30. Question, qu'est-ce qu'il y a à acheter à l'approche de Noël ?
Aujourd'hui, ce qu'il nous a ramené de la sole, mais en petite quantité. Normalement, cette période-là, si on avait nos licences, on pourrait aller dans les eaux anglaises, on aurait du turbo qu'on n'a pas. Tous les poissons nobles qu'on peut avoir sur des tables de Noël. Aujourd'hui, à part de la sole, il y a des prix forcément très très chers par rapport aux autres années, dû au manque de ressources.
26 euros le kilo de sole, c'est cher.
Normalement, cette sole, on est à 12-13 euros.
Donc à Noël, on a peu de poissons nobles et chers.
Voilà, c'est ça.
Vous vendez du poisson. Je peux vous demander pour les crustacés ?
On va les demander à Émilie.
Alors, montrez-moi ce que vous avez sur votre étal et à quel prix ?
Crabes, homards et araignées. Les araignées sont pas chères. Bon, moi, j'en ai pas en ce moment, mais les araignées sont à 3 euros le kilo environ. Et puis les homards, bah, là, pour l'instant, 51,90. Mais ça va continuer à monter jusqu'aux fêtes, clairement.
Conclusion, il y aura peu de poissons sur les tables à Noël, mais il y aura quand même des crustacés.
Du crustacé, il y en aura, oui.
Et donc à des prix
raisonnables pour moi, en tout cas.
Comme chaque année.
Comme chaque année, en tout cas.
Allez, qu'est-ce qu'on mange à l'approche de Noël ? Je vous donne l'ardoise du jour ici à la brasserie Le Châtillon. En entrée, méli-mélo de saumon frais et fumé sur lit de choucroute. Et puis un filet dorade royale avec un risotto de blé vert. Allez, autre institution boulonnaise où nous sommes allés faire un tour hier. Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe qui vient de fêter ses 30 ans avec son bassin de 20 mètres de long. La star, c'est la Raymanta. Et parmi les événements de l'année, il y a la naissance de bébé requin léopard. Cette année, donc, leur naissance, on ne peut pas encore les voir, mais Sarah Guibaudeau, chanceuse, a pu aller leur faire un petit coucou.
C'est joli, hein ?
Ouais.
Alors
ici, on se retrouve devant un bassin qui illustre les côtes californiennes. Et dedans, nous avons en particulier des requins léopards. Ils ont des très jolies taches marron foncé sur un fond plus clair. Font entre 1m50 et 1m70 de long. Ils sont adultes maintenant, hein. Ils ont 15-17 ans pour certains.
Alors Dominique Malvoy, vous êtes le responsable aquariologie ici à Nausicaa. Et cette année, vous avez eu un heureux événement au printemps dernier avec ces requins léopards.
C'est vrai qu'on se posait des questions de savoir pourquoi on n'avait pas encore de bébé. Donc on a fait des études, on a fait des observations, on a dosé certaines hormones. Et puis un jour, on a eu l'occasion de faire une échographie avec notre vétérinaire. Et on s'est rendu compte que nous avions deux femelles qui étaient gestantes.
Alors donc, on fait des échographies de requins.
Faut avoir un vétérinaire qui s'y connaît forcément parce que c'est vraiment particulier. Hein. Quand on regarde un écran d'échographie, bah, même quand c'est pour un bébé, c'est pas facile de voir ce qui se passe. Vous imaginez pour un poisson, c'est encore différent.
Et il faut l'attraper aussi.
Alors, chez les requins, en fait, il y a une technique. Le plongeur va attraper le requin. Ensuite, il va mettre sa main sur le bout de son museau. Voilà. Il va le retourner. Et dans ces cas-là, le requin, très rapidement, il va se calmer. Il ne va plus bouger. Il va être comme endormi. Et puis, on a eu nos petits bébés, là, au nombre de 16. C'est toujours très exaltant d'avoir ce type de naissance pour nous. Voilà, donc tout se passe très bien. Et maintenant, ils grandissent en réserve pour l'instant, puisqu'on ne peut pas les mélanger avec leurs parents ou leurs cousins voilà, dans le bassin, parce qu'il y a vraiment un risque de prédation.
Donc on va aller les voir, ces bébés.
Voilà, ici, dans cette cuve de 20 mètres cubes, on va retrouver nos bébés Triakis. Là, ce sont des requins qui font une quarantaine de centimètres aujourd'hui.
Alors, que vont-ils devenir ? Eh ben déjà, il en manque quelques-uns. Ils sont partis où ?
Alors, ce sont des requins qui font partie d'un programme de conservation européen. Et ils sont amenés, quand ils auront la bonne taille, à rejoindre l'aquarium de l'exposition. Mais aussi, ils vont partir, certains partiront ou sont déjà partis dans d'autres aquariums européens qui sont intéressés
Alors, est-ce que les requins se reproduisent bien en captivité? On se souvient qu'il y a 2 ans, vous aviez eu cette mésaventure en faisant venir des requins marteaux d'Australie qui n'avaient pas survécu. Je sais que vous n'allez pas m'en parler parce qu'une enquête judiciaire est en cours. Mais voilà, est-ce que les requins se reproduisent en captivité? Est-ce que ce sera une alternative pour les aquariums?
Alors aujourd'hui, beaucoup de requins maintenus dans les aquariums sont issus de reproduction. Mais avec les requins, c'est une espèce qui est mature tardivement. Ça peut être de l'ordre de 10, 15 ans, voire plus. Donc il faut être patient. Le but de ces programmes, c'est évidemment de réussir à les reproduire pour ne plus avoir à prélever ce type d'animaux dans la nature. Mais aussi, pourquoi pas, dans un avenir alors plus ou moins proche, de pouvoir réintroduire des animaux dans la nature. Et donc c'est assez important de pouvoir nous participer à la sauvegarde de ces espèces.
Et notre rédactrice en chef Sarah Guibaudot sait désormais comment attraper des requins. Merci à Sarah Guibaudot, Claire-Sophie Collet, Guillaume Rialan, Thibault Lefebvre, Hélène Langlois, Lucien Lefebvre et Louison Soulignac. Et un grand merci à la patronne du Châtillon, Camille Baude, qui nous a accueillis en plein service.